Phil PM. Les chefs.
Alors, mon message là, au fédéral est simple. C'est le temps de commencer à travailler. Là.
Contrairement au gouvernement libéral qui s'est traîné les pieds, nous, au Parti québécois, on n'a pas attendu que la crise des migrants s'intensifie afin de proposer des solutions responsables.
Au lieu de se renvoyer la balle, comme le font actuellement les gouvernements provinciaux et fédéraux, ce qu'on devrait, c'est travailler ensemble, trouver des solutions, et le fédéral, oui, doit en faire plus.
Quand le premier ministre va-t-il avoir une vraie gestion pour arrêter d'être brouillon?
Il faut qu'on soit capable de, justement, soutenir notre demande avec des documents et de bons arguments. C'est le B.A.B.A. de la gestion publique.
Les chefs. Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Ils sont mieux de se mettre au travail dès maintenant.
Alors, c'était tout un florilège d'extraits que vous venez d'entendre. Philippe Couillard, avant lui François Legault, avant lui Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, Catherine Fournier du Parti québécois et juste avant, à nouveau, Philippe Couillard. Et pour discuter, vous l'aurez compris, de ces échanges corsés sur toute la question des migrants et qui doit payer la facture, eh bien, il y a Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonjour Alec.
Bonjour.
Alors, nos deux snoreaux vont faire un peu de tandem aujourd'hui parce que c'est un enjeu, dans le fond, qui... où s'affronte.
C'est du transparlementarisme, mon Bernard.
Oh là là!
Martine Ouellette serait contente de nous entendre.
Ce sera son héritage, peut-être. Antoine, commence donc avec l'échange donc, de ce matin sur cette question des migrants.
Sorti quand même très senti du premier ministre et de David Hortel juste avant d'entrer à la période de questions. M. Couillard était visiblement pas content. Là. On le voit par les propos qu'il a utilisés. Il a dit « la réponse d'Ottawa est inacceptable ». Réponse à quoi? Il faut se souvenir. Là. Il y a d'abord une lettre du Québec le 21 mars qui dit qu'on est face à une situation tout à fait exceptionnelle pour ce qui est des réfugiés. Puis ensuite, il y a quatre ministres qui ont réitéré leur demande en début de semaine, qui ont dit que le fédéral leur devait finalement 146 millions, mais que c'était juste un montant temporaire. Là, on n'a même pas encore finalement ventilé toute la facture, mais que déjà, il y a 146 millions. Ça va être un strict minimum. Alors, M. Couillard a dit « Je suis extrêmement insatisfait de la réponse d'Ottawa. Ça montre une méconnaissance complète du terrain. » Je te dis, il était vraiment fâché. On peut en écouter une partie, d'ailleurs.
Bien sûr. Alors, mon message là, au fédéral est simple. C'est le temps de commencer à travailler. Là. Ce ne sera pas comme l'an dernier, quelques semaines plus tard, où tout le monde va se mettre à être en action ensemble sur le terrain. Il faut qu'on soit en action maintenant. Il faut que vous jouiez vos rôles maintenant. Le chiffre d'accueil maximum que mes collègues ont cité n'est pas un chiffre pris en l'air. Il correspond à notre véritable capacité d'accueil. Et il vaut mieux de se mettre au travail dès maintenant pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous. On veut bien collaborer, mais qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'on va arriver à cette capacité?
Donc, la capacité en question, là, c'est quand on va arriver à 85 % des 1805 places, 1850 places dont on bénéficie, donc qu'on a organisé dans quatre centres d'accueil.
Oui, voilà.
Et là, le fédéral dit, il y en avait 13 l'an passé. Ben oui, mais le Québec répond, oui, justement, on était pris avec un débordement qu'on pouvait se dire exceptionnel parce que c'était lié à des décisions du président américain, temporaire finalement, mais il semble bien que le mot s'est passé à travers la planète. Là, c'est des Nigériens qui n'ont pas rapport finalement qui n'ont pas rapport avec ce qu'on avait l'an passé comme immigration, c'était plutôt des Haïtiens. Et donc, on peut s'attendre à ce que ça soit un phénomène qui s'installe, qui va être permanent. Alors, le fédéral, selon le Québec, doit se réveiller, doit venir sur le terrain et comprendre que le Québec a besoin de plus d'aide.
Oui, et il y avait aussi l'insatisfaction exprimée publiquement, mais il y a de l'insatisfaction exprimée aussi privément par le Québec, là.
Oui, oui, bien sûr. Puis il y a une rencontre ce soir où on va le dire. Moi, j'ai posé la question, tu sais, quand on parlait de ça la semaine passée, si je ne m'abuse, Alec avait, ou c'est cette semaine, non? Le temps passe vite en bonne compagnie. Hein? Et donc, Alec avait toutes sortes de griefs qui venaient d'Ottawa, là, notamment que M. Hertel n'était pas présent au fameux groupe de travail qui a été mis en place l'été dernier. Et M. Hertel était était fâché quand j'y ai posé cette question-là tout à l'heure. Ah oui, il a dit, écoutez, là, moi, j'arrivais comme ministre, donc la première rencontre, j'ai pas pu y aller, mais il y avait quelqu'un du Québec qui était présent, soit de façon téléphonique, ou il y a toujours quelqu'un du Québec qui a été présent les fois où j'ai dû rater. Une fois, je pense que c'était le jour du budget, M. Hertel devait être à Québec, la rencontre avait été déplacée. Il était vraiment pas content. Je pense que, confidentiellement dans son entourage, là, on trouve que c'était pas mal un coup en bas de la ceinture de laisser filtrer cette information-là qu'il avait raté des rencontres alors que le Québec dit qu'il est très présent.
Ça fait plusieurs semaines en passant, quand tu as des discussions avec Ottawa, qu'il souligne le fait que oui. David Hertel, n'est-ce pas, Alec?
Oui, oui. Et là, je pense que la conférence de presse de cette semaine a comme déclenché un ras-le-bol. Alors,
ils ont décidé de laisser libre cours.
Alors, en chambre aussi, on a beaucoup discuté. Je note que M. Legault, par exemple, sur la question des 146 millions, c'est intéressant ce qu'il a posé comme question. Il a dit, est-ce que le premier ministre peut comprendre que quand on fait des demandes floues à Ottawa, il va recevoir des réponses floues? C'était assez bien envoyé. Puis, je note aussi que M. Legault a pris toutes les questions. Moi, j'étais dans les tribunes et j'ai même vu une députée de la CAQ, Lise Lavallée, pour ne pas la nommer, qui aurait bien voulu poser une question à un moment donné. Elle était prête, elle avait les mains sur le pupitre. La question, toute rédigée devant elle, elle s'est même levée. Il y a eu une confusion. Puis c'est M. Legault qui a voulu prendre toutes les questions là-dessus. Alors, on voit que c'était une priorité pour le chef caquiste.
D'ailleurs, les caquistes, si je comprends bien, Antoine, parce qu'on a reçu un communiqué, là,
ouais.
Ils ont réitéré leur motion de limiter, dans le fond, le nombre de demandeurs d'asile en fonction du poids démographique du Québec. Et donc,
Mais la question, c'est ça. Eux autres, ils disent, parce que le Parti québécois s'est moqué un peu de ça hier, le Parti libéral aussi au pouvoir, de la notion de recevoir autant de demandeurs d'asile que le poids de la population québécoise, donc environ 23%. Là, la CAQ répond, écoutez, c'est dans la lettre là, du 21 mars déjà qu'on évoquait un nombre de demandeurs d'asile proportionnel au moins au poids de la population québécoise. Hier, il y a Catherine Fournier qu'on a entendue du Parti québécois. Hier, elle a fait un point de presse où elle s'est moquée de cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va recevoir les demandeurs d'asile, puis il va y avoir des autobus qui vont partir dans chaque province pour bien les répartir. C'est vrai que le principe est un peu, difficilement applicable. Là. Et c'était dans la motion d'hier, t'as raison de le rappeler. Puis les partis là, sont en discussion pour s'entendre sur un libellé, mais ça, il semble que ça soit pas encore mûr de ce côté-là.
Oui. Mais le chiffre du 23% proportionnel à la population est assez arbitraire et me semble difficile à appliquer. Parce qu'évidemment, il y a une année où t'en reçois 19%.
Est-ce que tu vas t'en importer.
Bon, c'est plus ça. Compliqué. Mais sur le fond, là, sur le principe, les libéraux disent la même chose. Ils veulent qu'Ottawa répartisse davantage le nombre de demandeurs d'asile sur le sol québécois. C'est ça. Donc, ils n'ont pas mis de chiffres, ils n'ont pas mis de proportions, contrairement à la CAQ, mais ils doivent bien s'entendre sur le fond. Parce que moi, on m'a dit que c'était dans le plaidoyer de Québec qu'on va faire en fin de journée aujourd'hui dans la fameuse rencontre du groupe de travail à Ottawa. David Hertel va être là. On va parler d'argent, puis on va parler de répartition équitable des demandeurs d'asile. Bien, sur le fond, ça pas très éloigné.
C'est drôle parce qu'en chambre, tantôt, le premier ministre a comme sapé cet argument-là en disant il faut être prudent dans ce que propose le collègue. Je le cite au texte. Par exemple, les 148 millions, si on applique sa logique, on pourrait dire qu'on va juste en réclamer 77% plutôt que 100%. Nous, on veut les 100% des sommes. Je ne sais pas si vous suivez, là.
Bien sûr, c'est ben oui.
Mais c'est ça, là. Il y a un risque à dire qu'on veut.
Mais je pense qu'il y a une game politique en dessous de ça. Je pense qu'il y a une game politique parce que sur le fond, ils s'entendent. C'est les mots, là, mais quand tu t'entends sur le fond, habituellement, tu trouves les mots. Moi, j'ai l'impression que les libéraux ne veulent pas donner à la CAQ quelques prises que ce soit dans ce débat-là. Ils ne veulent pas leur donner un pouce, ils ne veulent pas leur donner raison de quelque façon
que
ce soit.
Tu vois que François Legault, là, en prenant toutes les questions aujourd'hui, en laissant aucune place à son équipe, a vraiment voulu marquer le coup. Puis alors que il y a Jean-François Lisée aussi qui a posé des questions après Catherine Fournier qui a essayé de préciser la question puis faire lever le premier ministre là-dessus. Donc c'est vraiment le sujet chaud aujourd'hui à Québec.
Et Québec, moi on me soulignait lors de mes conversations hier avec différentes personnes à Québec que on a été très gentils avec le fédéral lors de la précédente vague de migration, hein, au mois d'août puis septembre dernier. Là, on était obligé d'ouvrir des centres d'urgence, puis il y avait un petit peu de chaos. Hein. Souviens-toi, l'armée à la frontière, on monte des tentes.
Bon, on a ouvert le stade.
et malgré tout, tu n'as pas entendu une ligne de Québec accuser Ottawa de mal gérer cette crise-là. Hein. C'était plutôt, on va se retrousser les manches.
Mais non, Philippe Couillard s'en prenait au chef de l'opposition qui posait des questions. Justement, voilà. Les questions qu'il pose aujourd'hui, là.
Oui.
C'était précisément les questions que posaient Legault, Élysée, puis le premier ministre leur faisait des procès en xénophobie.
C'est ça. Alors là, à Québec, je comprends qu'on ne veut pas jouer dans ce film-là en pleine campagne électorale, que là, on commence à dire d'avance, nous, chers amis à Ottawa, là, on ne sera pas, comme l'année dernière, assez gentils sur votre gestion. Donc, commencez à affûter vos crayons tout de suite parce que ça va être plus compliqué. Donc,
moi, D'où ma thèse, Alec. Moi, c'est un réveil tardif, c'est-à-dire qu'on défend les intérêts du Québec souvent dans les gouvernements libéraux dans les derniers mois avant les élections, là, vraiment, on bombe le torse face à Ottawa, mais aussi une sortie préventive.
Ben oui.
Et comme tu dis bien, en vue des prochaines
élections. Ça réagit aussi à Ottawa.
Ben oui, vas-y.
Alors, hier, on a posé la question au ministre de l'Immigration, Ahmed Hussein. C'est pas lui qui préside le groupe de travail qui se réunit en fin de journée aujourd'hui. C'est Marc Garneau qui est ministre des Transports. Mais comme c'est un ministre du Québec, ça facilite beaucoup les choses que ce soit Marc Garneau qui soit là. Puis en plus, il préside le comité du cabinet sur les relations États-Unis-Canada. Donc, comme beaucoup de ces migrants-là viennent des États-Unis suite à des décisions de Donald Trump, c'est plus facile. Mais c'est Ahmed Hussein, donc, qui a pris quelques questions hier en point de presse. Il a dit, grosso modo, qu'il était ouvert à discuter avec Québec, qu'il n'y avait rien de concret pour l'instant, mais que les demandes de Québec allaient être accueillies. Je peux te faire entendre un extrait.
We're making those necessary investments. We've made additional investments in terms of settlement and integration of newcomers in Quebec. They're also receiving more money under the Canada Social Transfer for things like housing. So we're doing a lot. So we've proven that we are ready to respond to concerns raised by Quebec, and we will do so again, but we wait a more detailed proposal from Quebec.
Il a, grosso modo, répété ce qui l'a mis dans sa lettre qui a été envoyée tard hier soir au ministre québécois, t'en faisais état ce matin à Paul Arcand, que le transfert en matière d'immigration et d'accueil des réfugiés a été bonifié de 112 millions cette année par rapport à l'année dernière, parce qu'on en reçoit davantage. Le montant total, c'est 490 millions pour l'année, mais c'est 112 millions de plus que l'année précédente. Donc, on dit, ben là-dedans, il y a de l'argent nouveau hein, que Québec peut utiliser. C'est pas le 146, mais c'est peut-être une partie de la facture. Mais on attend la ventilation des coûts. On précise ça dans la lettre aussi. On attend de voir ce que Québec calcule dans son 146 millions. On dit qu'on a délivré beaucoup plus de permis de travail rapidement, parce que souviens-toi, à un moment donné, c'était ça le problème. C'est que les mois étant très longs et très nombreux avant qu'on traite les dossiers, ben là, les gens pouvaient pas travailler. Puis dans ce temps-là, c'est un fardeau supplémentaire pour la province. Donc, on avait 3 mois d'attente avant de délivrer un permis. C'est maintenant 30 jours. On en a délivré 12 000 en tout. Donc, on dit que ça devrait aider Québec. On répète que les frais de santé des demandeurs d'asile sont couverts par Ottawa en vertu d'un programme spécial. Mais c'est clair que tu lis la lettre là, qui fait presque 3 pages. Il va y avoir des discussions sérieuses à y avoir parce que Ottawa ne semble pas dire simplement « Oui, oui, on accepte toutes vos demandes. Signé en bas, le chèque s'en vient. » C'est pas non, comme non. ça que j'ai interprété la lettre en question. Non. Donc, on en a pour, je pense, quelques semaines de va-et-vient dans ce groupe de travail à s'échanger des lettres, puis des documents, puis des factures, puis des comment on règle ça, cette situation-là.
J'espère qu'ils ont quelques guenilles en réserve parce qu'il va y avoir beaucoup de chicage de guenilles. Il va y avoir du chicage de guenilles. Là, ça, c'est bien, bien clair.
Puis en même temps, c'est de la technique. Là, c'est deux paliers de gouvernement qui se parlent d'argent puis de répartition des demandeurs d'asile. Mais en réalité, c'est un sujet drôlement important. Là.
Oui,
c'est comment tu traites ces gens-là, démunis souvent, qui viennent ici refaire leur vie, mais qui, eux aussi, veulent que leur dossier soit traité rapidement. Parce que je te rappelle qu'il y en a à peine 50% qui sont acceptés une fois que le dossier est traité. Là.
Ben oui.
Alors, à un moment donné, il faut qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Ces personnes-là, ils peuvent être dans les limbes pendant 2-3 ans. C'est immense là, quand tu ne sais pas avec ta famille où tu vas te retrouver éventuellement.
Si tu as eu des enfants entre-temps là, qui sont citoyens canadiens?
Ça se peut. Ben oui, quand plus c'est long, plus tu as l'occasion de refaire ta vie. Alors, c'est pas évident, là.
Voilà. On va s'arrêter parce qu'au retour, on a plein d'autres sujets, notamment la question là à propos du député Yves Saint-Denis. Est-ce qu'il y a eu camouflage d'informations. Est-ce que les libéraux l'ont su plus tôt qu'on le pensait? Antoine va nous parler de ça. Et puis, bien sûr, Alec va nous parler du conflit autour de Kinder Morgan, là, le fameux pipeline. Là aussi, il y a des nouveaux développements dans un instant. De retour avec Antoine et Alec. Antoine, parle-nous donc de cette affaire Yves Saint-Denis. On en sait un petit peu plus, là. Et la question...
Est-ce qu'il y a eu tentative de camouflage?
Bon, voilà, j'allais dire.
Oui, c'est ça. Donc, les partis d'opposition laissent penser et croient que c'est ce qui est arrivé. Notamment, Geneviève Guilbeault de la Coalition Avenir Québec dit au Parti libéral, c'est toujours la même chose, il y a un scandale sexuel, il y a une tentative de camouflage, ça finit par sortir dans les médias. Puis elle fait des parallèles avec d'autres cas, notamment celui de Jerry Sklavounos. Alors, à quel moment là, le parti a été mis au courant des inconduites sexuelles de M. Saint-Denis. Elle l'aurait dit, la victime, au parti dès 2014. Nicole Ménard, la présidente du caucus, elle dit, je vais vous réitérer ce que je vous ai dit mardi. C'est dès que la plaignante m'en a parlé le 1er décembre, je lui ai fortement recommandé d'avoir recours à la politique de harcèlement de l'Assemblée nationale. Je lui ai même envoyé le document. A dit Mme Ménard, parce qu'il y a la presse rapportait que c'était peut-être dès octobre qu'on en avait entendu parler, puis c'est-à-dire que la victime s'était ouverte là-dessus. Et d'autres disent, bon, ben au parti, en 2014, qu'elle l'ait dit au parti en 2014, là, est-ce qu'on lui a dit de se taire? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, des questions ont été posées à Philippe Couillard dans le point de presse, là, en marge de l'histoire sur les demandeurs d'asile. Mmh. On peut écouter Philippe Couillard à ce sujet.
Mmh. Je me suis assuré que les vérifications en cours au parti couvrent également cet élément-là, et ça va être le cas. Je vais en avoir le cornet. C'est pas vrai qu'on va banaliser cette situation-là. Là. On va voir exactement ce qui a été fait, à quel moment. Cependant, je dois dire que la nouvelle politique qui a été mise en place par les élus, elle est beaucoup plus efficace que ce qui existait auparavant. Et ça vaut pour toutes les types d'organisations.
Oui, mais donc, il dit, j'ai posé des questions au parti.
Oui.
Et là, quoi, il s'engage à...
Mais il va y avoir des vérifications.
À diffuser les réponses quand il va les avoir?
Oh, j'ai pas entendu ça.
Non, hein.
À
non
moins plus. Que j'ai mal écouté.
Non, mais est-ce que là où je vais en venir...
Ça m'a échappé?
Non, ça, y a rien qui t'a échappé, comme d'habitude, Antoine. C'est parce que moi, je trouve que ça a l'air de... oui, j'ai posé des questions, etc., etc. Et dans 2-3 jours, personne n'en parlera plus de cette affaire de Yves Saint-Denis. Et puis, finalement, les questions qu'il a pu poser, ben, peu importe les réponses qu'il recevra, vont tomber dans les limbes.
Tu comprends? Ouais, probablement. Non, comme tu le disais hier, est-ce qu'il y a un dommage permanent très, très grand à cette affaire pour le Parti libéral? Non, je pense qu'on compte justement sur...
Le temps.
Voilà.
Le temps.
Laissons le temps faire son œuvre d'effacement.
Oh boy! Hey, tu deviens grave, toi.
Telle une vague sur un château de sable.
OK, arrête et fais-nous entendre les réactions de l'opposition, s'il te plaît.
Écoutons Gabriel Nadeau-Dubois.
Et quand un parti politique est informé de l'existence d'allégations de nature sexuelle comme celle-là, leur devoir au parti, là, c'est d'accompagner les victimes, de faire enquête et de faire le ménage. Pas de faire taire les victimes pour sauver la réputation du parti.
Oui. Le Parti québécois, on dit ils auraient pu agir plus tôt. C'est triste qu'on soit obligé d'attendre d'être devant les médias pour qu'une formation politique agisse. Et c'est Sylvain Pagé du PQ qui a dit ça.
Affermissant. Bon, très bien. Parlons de Kinder Morgan, oui. Mon cher Alec.
Ils font des œufs de Pâques, hein?
les œufs Kinder, c'est autre chose, ça, Antoine.
Sur Facebook, ça déconne beaucoup sur Kinder Morgan.
Oui, c'est pas limité à Facebook, visiblement. Vas-y, mon Alec. Laisse-toi pas déconcentrer par
notre
cabotin de crapaud là-bas.
Écoute, notre conflit autour du pipeline Kinder Morgan s'étend maintenant à d'autres provinces. Ça fait tache d'huile.
Merci
beaucoup.
Je l'ai travaillé ce matin. Une belle petite batterie, oui.
Ouais, j'ai travaillé ce matin en préparant la chronique.
C'est un sujet glissant.
Oui, c'est ça.
Et voilà.
Alors, oui, ça s'étend à d'autres provinces parce que là, c'est en train de dégénérer. On sait déjà que l'Alberta et la Colombie-Britannique sont à couteau tiré sur ce pipeline-là. Ottawa a pris le côté de l'Alberta en voulant construire ce pipeline-là en disant que c'est dans l'intérêt national. Et là, hier, dernier développement, la Saskatchewan plonge dans le débat. Elle va faire comme en Alberta au début de la semaine et déposer, donc Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, va déposer un projet de loi pour contrôler l'endroit où vont leurs exportations de pétrole et ainsi pouvoir diminuer, s'ils le souhaitent, les exportations vers la Colombie-Britannique.
Syncope! Écoute, ça se comporte comme si c'était deux pays différents.
Écoute, la Saskatchewan exporte pour 375 millions de dollars par année de pétrole raffiné à la Colombie-Britannique. C'est les chiffres que le bureau du premier ministre de la Saskatchewan a donné aux journalistes. Et donc, en déposant un projet de loi comme celui de l'Alberta, ben, les deux provinces productrices de pétrole à proximité de la Colombie-Britannique qui exportent une partie de leur pétrole vers la Colombie-Britannique vont pouvoir décider si on ralentit le flot comme ça et qu'on donc prive en partie la Colombie-Britannique de ce précieux jus. Puis Scott Moe est allé plus loin. Scott Moe de la Saskatchewan a dit, écoutez, avant d'être des côtes de la Colombie-Britannique, ce sont des côtes canadiennes. En voulant dire, nous aussi, qui sommes enclavés, comme l'Alberta, devons profiter de ces côtes-là. Elles n'appartiennent pas uniquement à la Colombie-Britannique, elles sont des côtes canadiennes.
Ça, c'est le premier ministre
de la Saskatchewan.
Le premier ministre de la Saskatchewan qui dit ça.
Qui justifie son projet de loi à venir de cette manière-là. La Colombie-Britannique a dit, bon, alors regardez ces projets de loi-là qui s'en viennent, a dit, je pense que c'est du bluff. La ministre de l'Énergie de la Colombie-Britannique a dit, je pense que c'est du bluff, du positionnement politique, parce que dès le moment où ils vont procéder concrètement à une réduction du flot de pétrole, nous, on va aller devant les tribunaux, déposer une injonction. On pense que c'est anticonstitutionnel que de procéder de cette manière-là, qu'ils n'ont pas le contrôle sur ces pipelines-là et qu'ils ne peuvent pas procéder, justement dans l'intérêt national, de cette manière-là, parce que là, à ce moment-là, tu prives une province de ressources très importantes pour son développement économique.
Mais en même temps, c'est de propriété privée, ces pipelines-là. Ça appartient pas à l'État de la Saskatchewan, à l'État albertain.
Exactement.
Donc, les grandes compagnies qui sont propriétaires, là, comme ça... Enbridge et compagnie, ils doivent pas triper bien fort.
Écoute,
parce que c'est des
partagé.
Pertes de revenus pour eux autres.
C'est assez partagé. Je lisais là, en Alberta, entre autres, une partie de l'industrie qui est contente que la première ministre, dans le cas de l'Alberta, Rachel Notley, se tienne debout, mette de la pression. Si pendant un temps, il faut faire ça, perdre un peu de revenus, mais pour avoir éventuellement plus d'accès au marché asiatique, on le fait. Puis une autre partie de l'industrie qui dit « ouf ». D'abord, ça nous prive de revenus. Ensuite, ça détériore nos relations avec nos clients Colombie-Britannique, hein, parce qu'eux autres aussi ont des clients. Les pipelines, les tuyaux, ils s'en vont quelque part. Il y a du monde qui en achète du pétrole au bout. Donc, ça détériore ta relation avec les clients Colombie-Britannique. Donc, c'est vrai que c'est pas toute l'industrie qui est d'accord avec ce procédé-là. Ce qui fait dire à la Colombie-Britannique qu'il y a beaucoup de bluff là-dedans. On verra si ça va être le cas. Puis, du côté de l'Alberta, on réplique en disant non, ce n'est pas anticonstitutionnel parce qu'on ne pointe pas la Colombie-Britannique dans notre projet de loi. On dit qu'on veut contrôler le flot de nos exportations. Ça s'applique à tout le monde. C'est un petit peu hypocrite, on s'entend. C'est pour ça qu'ils le font. Mais c'est pas nommé. On ne nomme pas la Colombie-Britannique dans le projet de loi de l'Alberta qui a déjà été déposé. Alors, on en est là. Je te fais entendre un extrait de... Ah oui, je voulais te dire, ça s'étend à Saskatchewan, ça s'étend aussi au Québec. Parce que là, Antoine peut en être témoin, à Québec, on appuie la Colombie-Britannique et de manière de plus en plus importante.
Mais là,
Le Parti québécois a même offert son aide et son expertise.
Ouais. Ça, je suis pas sûr que ça va être accepté en Colombie-Britannique, là. Mais...
non, mais Jean-Marc Fournier, lui, c'est très clair qu'il appuie la Colombie-Britannique, sauf que Philippe Couillard, jusqu'à maintenant, publiquement, il a dit qu'il voulait pas prendre parti.
Non, mais as-tu entendu sa déclaration hier à Philippe Couillard?
Ah non, ben vas-y.
On va te la faire entendre.
Ah, très bien.
Les provinces doivent pouvoir exercer pleinement leur juridiction législative et réglementaire, même sur des projets qui sont de juridiction fédérale. On ne dispute pas le fait qu'un pipeline interprovincial soit de juridiction fédérale, mais on ne peut pas balayer les droits des provinces et l'intervention des provinces comme ça. Ça, c'est notre argument principal. Les deux provinces ont des arguments valables. J'entends pas, moi, prendre part pour une ou pour l'autre, mais insister sur la défense des droits des provinces.
Oui, mais c'est ça.
Ben, en faisant ça...
Ben oui, il prend position.
Ben oui, puisque l'Alberta est dans l'autre
camp. Il est un peu
dans
le sophisme, là.
Oui, là. Ouais.
Hein? Je prends
mais
position,
jadis,
mais
quand
position.
Un premier ministre du Québec disait ça, il prenait fait et cause pour l'Alberta.
Oui, c'est vrai.
Parce que l'Alberta, jadis, ben était une autonomiste.
Oui, voilà. Ben, elle l'est encore. Elle l'est encore à sa façon. Ben oui, mais elle veut vendre son pétrole.
Je sais bien, mais d'accepter comme ça...
L'intervention du fédéral.
L'intervention impériale du fédéral, je trouve qu'elle se contredit.
Et ce matin, il y avait un comité d'accueil pour Justin Trudeau, qui est à Londres, qui allait rencontrer Theresa May.
Il y a quand même un certain paradoxe. Prenons 10 secondes pour le noter.
Oui, vas-y.
Il se présente comme grand environnementaliste qui lutte contre les gaz à effet de serre devant l'Assemblée nationale française notamment, se fait chaudement applaudir quand il le dit.
Oui.
Et par ailleurs, c'est vrai qu'actuellement, il est le parrain d'un projet de pipeline au Canada.
Oui, hein, il est résolument du côté des promoteurs du projet et de l'Alberta. Donc oui, il veut qu'il soit construit, effectivement. Puis d'ailleurs, c'est ce que la trentaine de manifestants de Greenpeace lui ont rappelé ce matin. Donc autour du Haut-Commissariat canadien à Londres, qui est sur le très fréquenté Trafalgar Square.
Oui.
C'est un endroit touristique qui est très fréquenté. On a posé de très gros tuyaux qui s'apparentent à un pipeline tout le tour du commissariat.
Du Haut-Commissariat.
Voilà, et avec des gros mots pour Justin qu'on attendait pour lui.
Quels étaient les gros mots?
Ben, on a fait toutes sortes de jeux de mots avec oil puis Trudeau.
Oh! Hein? Bon.
Ça, c'est pas de moi. Ça, c'est de Greenpeace Grande-Bretagne.
Bon. Mais alors, ça pour dire que ça le suit. Batterie.
Ouais, c'est ça. Ça le suit ce matin à Londres.
Oui, oui. D'ailleurs, il a rencontré la reine il n'y a pas longtemps de ça. Et ben, on salue la souveraine, n'est-ce pas, Antoine?
Ben oui, God Save the Queen. Voilà. Même mon oncle 101 se plie à l'anglais dans ce temps-là.
Antoine Robitaille, on va t'arrêter là-dessus aussi. Chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec, avant que tu te mettes à parler le British. Et Alec Castonguay, chef...
Au revoir!
Au revoir, Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité.
À demain.
See you tomorrow, alligator. Et Loïc Tassé s'en vient. Bye-bye.